Bonsoir. Après les élections de 2011, quel bilan dressé de la gestion de la province du Bandundu sur le plan politique, sécuritaire et socio-économique? Nous en parlons avec Christophe Malela, il est conseiller chargé de la presse, information et communication du gouverneur du Bandundu. Bonsoir Christophe Malela.
Bonsoir.
Prosper Ndioré, il est président de la société civile du Bandundu. Bonsoir Monsieur Prosper Ndioré.
Bonsoir.
Et Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation. Bonsoir Maître Soudi Alimasi Kimputu.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dialogue entre Congolais se penche ce soir sur la gestion de la province du Bandundu après les élections de 2011. Quel bilan peut-on dresser sur le plan politique, sécuritaire et socio-économique? Pour en parler, suivons cet entretien entre Alain Irung et Fabien Kambinzi, notre correspondant dans cette province.
Fabien Kambinzi, bonsoir. Comment se présente le bilan de la province du Bandundu du point de vue politique de 2011 à ce jour?
Bonsoir Alain Irung, il faut signaler que la province du Bandundu a eu pas mal de problèmes pour décoller, surtout sur le plan politique. Comme vous le savez, le poste de gouverneur de cette province est resté vacant pendant plusieurs mois. On notera que peu avant ces élections de 2011, le gouverneur de province Richard Ndambou avait été déchu par l'Assemblée provinciale. Le vice-gouverneur Vicky Mbosso est resté assumer l'intérim juste aux élections. Et après ces dernières, le même vice-gouverneur a été élu député national. Et à sa place, il va désigner lui aussi un intérimaire en la personne du ministre provincial Edouard Kinanga. Comme vous le constatez, plusieurs intérimaires se sont succédés à la tête de cette province. Des intérimaires qui ne pouvaient pas prendre des grandes décisions engageant la province.
Alors Fabien Kambinzi, que peut-on retenir du point de vue sécuritaire? Vous allez également ramasser les aspects socio-économiques.
Alors, du point de vue sécuritaire, en réalité, la province du Bandundu est restée pratiquement calme sur toute son étendue, si ce n'est pas des cas isolés tels que le refoulement des Congolais de l'Angola et aussi la présence des clandestins ouest-africains qui prend de l'ampleur jusqu'à ce jour. Un phénomène, Alain, bien connu par certains hommes politiques, mais qui préoccupe la police. En ce qui concerne l'aspect socio-économique, on notera dans les plans d'action du gouvernement provincial, la maximisation des recettes, la relance agricole à travers son projet village agricole, la réhabilitation de quelques routes de dessertes agricoles, un programme initié par le gouvernement provincial dirigé par Jean-Camisène Dukutuka en fonction depuis le 6 juin 2012 à l'issue des élections du 31 mai 2012.
Merci Fabien Kambinzi et bonne soirée au Bandundu.
Merci Alain, bonne soirée aussi à vous à Kinshasa.
Merci Alain Irung et Fabien Kambinzi. Christophe Malela, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la presse, information et communication du gouverneur du Bandundu. Nous allons commencer par les aspects politiques et sécuritaires. Et quel bilan pouvez-vous dresser sur le plan politique et sécuritaire de la province du Bandundu après les élections de 2011?
Bon, la province du Bandundu, c'est une province qui a moins de problèmes sécuritaires. Vous pouvez circuler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous verrez qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Donc, ces problèmes sécuritaires ne se posent pas, sauf que quelques tensions ethniques par-ci par-là dues au conflit. Donc, dans l'ensemble, la province du Bandundu se pose pas un problème de sécurité.
Et voilà. Et comment se déroule l'activité parlementaire à l'Assemblée provinciale en ce qui concerne les contrôles parlementaires? Comment jugez-vous le contrôle parlementaire à l'Assemblée provinciale du Bandundu?
Bon, je pense que c'est un devoir légitime, comme tout parlement. Ils ont comme rôle de contrôler les travaux de l'exécutif provincial. Alors, le parlement provincial a initié quelques commissions pour contrôler les actions du gouvernement provincial. Nous, en tant que gouvernement provincial, en tant que représentant du gouverneur, nous pensons que c'est très 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 important parce que ça va aussi de l'avenir de notre province. Il faut que l'exécutif soit contrôlé de tout ce qu'il est en train de faire.
Vous dites que l'Assemblée provinciale a initié quelques commissions pour contrôler l'action du gouvernement provincial. Et nous savons que le gouverneur Jean Kamisendou a été élu à la tête de cette province il y a de cela 2 ans. Et il n'a été inquiété qu'une seule fois à travers la motion du député Moza. Et pourquoi c'est une seule fois qu'il a été inquiété? Est-ce que ça veut dire que il gère la province parfaitement, au point que l'Assemblée provinciale n'a pas de griefs à formuler contre lui? Ou c'est l'Assemblée provinciale qui est complaisante vis-à-vis du gouvernement provincial?
Bon, d'entrée déjà, je dois vous dire que la province a beaucoup souffert. D'abord, en 2006, on a élu comme gouverneur Richard Ndambou. Richard Ndambou a travaillé pendant 4 ans. Il a été déchu par l'Assemblée provinciale. Et on a eu maintenant la succession des intérims. Et ces intérims-là ont fait pratiquement 2 ans. Et si vous voyez, à cette époque-là, je vous dis franchement, la province n'était pas dirigée. Alors, il fallait attendre l'élection organisée au mois le 31 mai 2012. Et c'est le 6 juin 2012 que Jean Kamisendou a pris officiellement ses fonctions comme gouverneur des provinces.
Bon, il a... Ça fait 2 ans.
Oui, ça fait pratiquement 2 ans. Il est venu avec un programme ambitieux. D'abord, il dit, la relance du secteur agricole. Ensuite, la réhabilitation de routes de desserte agricole. Il parle maintenant de la bonne gouvernance et la maximisation de recettes. Alors, d'entrée DG, Jean Kamisendou entre au pouvoir. Il trouve que au niveau local, des recettes, la province faisait 50 à 40 000 dollars par mois. Il dit, essayons un peu de monter des stratégies pour maximiser des recettes. On a fait une sorte d'entonnoir. Et le premier mois, nous sommes passés de 40 à 50 000 à 90 000. Et aujourd'hui, nous sommes à 250 000 dollars américains que la province produit par mois.
Et quels sont les moyens que vous avez utilisés, n'est-ce pas, pour maximiser ces recettes?
On a tout simplement réduit les postes de péage. Par exemple, à l'époque, si vous faites la nationale numéro 1, vous quittez Kinshasa, vous allez jusqu'au pont Luangé. Vous trouverez, à l'époque, il y avait 10, 15, 20 barrières. Mais... aujourd'hui, vous pouvez prendre la nationale numéro 1 jusqu'à Kikwit, vous payez la taxe uniquement à Bachongo. Alors, cette sorte d'entonnoir a permis à ce que les recettes de la province soient canalisées et c'est ça, voilà pourquoi nous avons atteint ces résultats.
Voilà, nous revenons sur le plan politique. Comment évolue la démocratie dans cette province, hein? Là, je parle du point de vue des activités des partis politiques, toutes tendances confondues. Est-ce que les partis politiques peuvent s'émouvoir, elles peuvent tenir leurs réunions, ils peuvent s'exprimer librement?
Nous sommes dans une province où le problème politique ne se pose vraiment pas. Parfois, quand nous arrivons avec les gouverneurs à Bandundouville, vous voyez les drapeaux de partis de l'opposition comme ceux de la majorité, vous allez à Kikwit comme partout ailleurs. D'ailleurs, depuis que le gouverneur est au pouvoir, sur 18 territoires dans la province du Bandundou, il a visité au moins 14. Alors, dans les 14 territoires où nous sommes passés, je vous dis franchement, avec ma main sous le cœur, que partout où il est passé, il est toujours reçu par l'opposition et par la majorité présidentielle. Donc, ce problème-là ne se pose pas. Et vous n'apprendrez pas qu'à Bandundu, il y a eu, par exemple, l'arrestation d'un sujet parce qu'il y avait un problème politique. Vous n'apprendrez pas qu'à Bandundu, il y a eu de problèmes vraiment dans ce sens-là. Donc... la politique, il n'y a pas de problème dans notre province.
Et sur le plan sécuritaire, il est dit que la province est calme sur toute son étendue. Et la province de Bandundu ne connaît pas des conflits de terres comme c'est le cas dans beaucoup de provinces de la RDC.
De conflits de terres, non. Moi, je pense que pas des conflits dans le sens où il y a la guerre, hein, à l'est. Chez nous, par exemple, ce sont des conflits où vous avez, par exemple, des tribus qui s'affrontent pour la forêt, hein, parce que ces jours-ci, la forêt commence un petit peu à disparaître. Alors, face à cette situation-là, ça crée beaucoup de conflits. Mais généralement, dans ces conflits-là, on n'utilise pas les armes comme ça se passe ailleurs. Donc, ça se règle peut-être entre amis, entre frères. Et parfois, on utilise la médiation des églises, de communautés. Voilà.
Et cela veut dire que les conflits des terres n'existaient pas au Bandundu.
Si, les conflits des terres existent.
Mais on arrive à les régler.
Oui, mais on arrive quand même à les régler avec des gens qui sont un peu sur place.
Et comment vous gérez les phénomènes clandestins ouest-africains?
Ah oui, ça c'est un problème qui a existé et qui commence un tout petit peu à diminuer, hein, parce que les ouest-africains passaient par la province du Bandundu pour aller en Angola. Alors, vous savez, pour arriver en Angola, la province de Lunda Norte, Lunda Sud, Zaïre, tout ça, il faut passer par la province du Bandundu. Et les Ouest-Africains venaient par Brazzaville, ils arrivaient à Kinshasa et passaient par la zone numéro 1 pour atteindre l'Angola. Mais je vous dis franchement, la province a pris toutes les dispositions, ils sont traqués, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont aujourd'hui changé des stratégies. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils arrivent là où il y a des barrières, ils prennent des motos. Ils prennent des motos et lorsqu'ils traversent la barrière, et c'est de l'autre côté, ils récupèrent les véhicules pour continuer. Mais nous avons pris toutes les dispositions. On a même organisé des procès publics au niveau des audiences publiques au niveau des Kikwit. Des Ouest-Africains ont été condamnés et ils sont aujourd'hui à la prison des Kikwit à Kenge et à Bandunduville.
Merci. Prosper Njore, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Bandundu. Et quel bilan vous dressez de la gestion de cette province sur le plan politique et sécuritaire?
Oui, merci, monsieur le journaliste, de la question. Nous avions suivi les propos du conseiller du gouverneur. Effectivement, comme on dit, gérer se prévoit. Sur le plan politique, quand on dit que la situation politique est calme, effectivement, c'est un calme apparent, puisque tous les partis politiques que nous avons ici dans la province de Bandundu sont seulement des répondants des grands partis politiques qui sont à Kinshasa. Donc, tout ce que les politiciens qui sont dans la province de Bandundu font, ils attendent des instructions ou des ordres venus de Kinshasa. C'est comme ça, apparemment, on donne l'impression que et la majorité présidentielle et les partis politiques d'opposition, tout le monde coalise ensemble pour appuyer l'action du gouvernement provincial. Ça, nous concédons. Quand le conseil du gouverneur parle de la situation sécuritaire, bien sûr, la sécurité, ce n'est pas seulement la guerre. La sécurité, c'est aussi le vol de bétail. Nous vivons un phénomène de vol de bétail par des hommes armés qu'on n'arrive pas à traquer. Vous n'allez pas dire qu'à ce moment-là, la population est en sécurité. La sécurité, c'est aussi le braconnage qui se fait, entre autres, en grande partie dans le territoire de Oshue, Inongo et Kiri. On ne va pas nous dire que la situation de Oshue, d'Inongo et de Kiri sont en sécurité dès lors qu'il y a des braconniers qui, s'ils n'attrapent pas ce qu'ils veulent attraper, ils abattent même les hommes pour s'écarter d'eux, puisqu'ils constituent à ce moment un obstacle. Ils ne diront pas qu'il y a nécessairement la sécurité. Donc, qu'on ne pense pas qu'il dit la sécurité, c'est égal seulement la guerre, mais c'est la sécurité, c'est permettre aussi aux hommes d'être libres, de circuler avec leurs histoires, de faire l'élevage, et que cet élevage qu'ils puissent profiter aux bénéficiaires. Mais quand on ne sécurise pas les éleveurs, chaque jour, il y a des hommes qui partent voler le bétail la nuit en armes et des fois, ils tuent même les paisibles bovins. Vous allez dire que la population est en sécurité puisqu'il n'y a pas de guerre. Il a parlé de conflits. Si on analyse le taux de conflits à travers la République démocratique du Congo, on vous dira que la province du Bandundu est parmi la province où le taux de conflits est trop élevé, entre autres des conflits ethniques, des conflits de terres. Quand il dit qu'il n'a pas de conflit de terre, il préfère parler de conflit de forêt. Mais cette forêt-là, c'est sur la terre. Quand un ou deux villages disputent une portion de terre en termes de forêt, ils font brûler des maisons. Et les gens fuient le village entier pour aller s'exiler quelque part parce qu'on a brûlé leur case. Vous direz qu'il n'y a pas conflit. Donc, on n'attend pas que les gens prennent les armes pour qu'on dise qu'effectivement, il n'y a pas de guerre. Si vous prenez la situation qui se passe des fois au niveau du territoire de Bolobo, où à tout moment, il y a conflit entre deux tribus,
On doit toujours prévenir pour que de pareilles histoires n'arrivent pas. Donc, qu'on ne pense pas quand on dit la situation sécuritaire, c'est égal nécessairement à la guerre. Mais des conflits qui font déchirer les biens entiers, embrayer les biens entiers, font partie aussi de l'insécurité de la population. Le Conseil a parlé sur le plan économique. Effectivement, le gouverneur est arrivé, ça fait à peine 2 ans.
Mais M. Ndioré, nous allons parler des aspects économiques dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons revenir sur l'aspect politique. Hein. Nous parlons du contrôle parlementaire. Comment vous l'appréciez, les contrôles parlementaires à l'Assemblée provinciale du Bandundu?
Oui, par rapport au contrôle parlementaire, effectivement, ça fait partie des prérogatives d'une Assemblée provinciale. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là où la population n'est pas d'accord, c'est de trouver que ce contrôle devient maintenant un moyen pour que certains députés puissent s'enrichir seulement, puisque à tout moment qu'ils vont faire le contrôle, avant même que le contrôle puisse terminer, ils vont brandir les résultats de leur enquête en coulisses chez le gouverneur, pour que le gouverneur puisse leur donner de l'argent. Et pendant que vous attendez un rapport parlementaire avec des recommandations fortes de façon à ce que l'exécutif puisse redresser beaucoup plus sa façon de gérer la province, mais en coulisses, c'est beaucoup plus les sacs de ciment qu'on distribue aux députés, les tôles qu'on distribue aux députés, de l'argent qu'on distribue aux députés. Alors, le contrôle pour nous servait comme un moyen pour les députés de s'enrichir, au lieu que ce soit un moyen pour permettre à l'exécutif de bien faire son travail, puisque le commun du mortel du Bandundu, sans que les 2 ans que le gouverneur a fait avec son équipe, en tout cas sur terrain, on ne sent rien. Ça, c'est, vous pouvez balader le micro sur la voie publique, n'importe quel village du Bandundu, on vous dira qu'on ne sent pas l'action du gouvernement. C'est pour dire que si on ne sent pas l'action du gouvernement, c'est de la même façon que nous disons que les députés qui devraient contrôler le gouvernement en bonne et due forme pour que l'action puisse se faire, les députés le font seulement pour s'enrichir, secouer le gouverneur et avoir de l'argent.
Monsieur Ndioré, sur le plan de la démocratie, comment vous évaluez l'état, n'est-ce pas, de la démocratie dans cette province? Vous, de la société civile, est-ce que vous arrivez à exercer vos activités librement?
Oui, oui, nous exerçons nos activités librement, mais de temps en temps, on nous intimide, on nous inquiète, entre autres les journalistes. Quand un journaliste fait une émission pour démontrer là où ça ne tourne pas, il est objet de menaces, il est objet de tracasseries. Au moment où nous parlons, notre frère, le président de la société civile de la ville de Kikwit, pour avoir dénoncé les événements qui se sont déroulés à Kikwit lors de festival Kester et Menea, pour démontrer que c'était la faute du gouvernement provincial pour n'avoir pas pris toutes les dispositions utiles, mais le monsieur a fait l'objet de menaces de la part de l'exécutif provincial. Donc, nous disons que la démocratie, si d'une façon générale on peut dire que les gens s'expriment, mais on nous inquiète de temps en temps, puisqu'on n'aimerait pas qu'on puisse démontrer que là où ça ne tourne pas. On aimerait que tout le monde puisse voir les choses de la même façon, que nous puissions seulement applaudir ce qu'ils sont en train de démontrer en termes théoriques. Mais si nous leur disons certaines vérités, on inquiète, puisque beaucoup de journalistes ont toujours été inquiétés par rapport à leurs déclarations, à leurs opinions, à leur façon de voir les choses et qui n'arrange pas le gouvernement provincial.
Merci, Monsieur Ndioré. Maître Soudi Alima Sikimputu, vous êtes expert en décentralisation. Quel bilan vous dressez par rapport à la gestion de la province du Bandundu sur le plan politique et sécuritaire?
Merci beaucoup, Alain. Je crois que lorsque nous faisons ce genre de débat, il faudrait à un moment donné que nous puissions tous avoir l'idée en tête qu'une entité comme la province, lorsqu'elle est évaluée, il faudrait que nous ayons le même sens de penser que l'administration territoriale ou la décentralisation, ce sont des questions qui concourent au développement local. Et lorsque on plane de manière superficielle, au lieu d'attaquer la question au fond, qui est pratiquement la conséquence de cette gestion qui doit se faire sentir au niveau du vécu quotidien de la population, ça devient un problème. Qu'à cela ne tient. Du point de vue politique, nous avons observé une stabilité précaire entre les institutions politiques de la province du Bandundu. Précaire pourquoi? Parce que, après tout ce qu'il y a eu comme... problème entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, la succession des intérims, il y a eu élection de l'actuel gouverneur, mais on a laissé fonctionner ce gouvernement provincial avec l'idée que effectivement il y aura beaucoup de promesses et beaucoup des dons qui pourront être faits. Mais malheureusement, après l'axe de temps, le constat est que les députés provinciaux ont commencé à s'immiscer, comme nous l'avons dit pour d'autres provinces, aux actions de l'exécutif provincial. Vous avez suivi vous-même des tôles et des ciments, les députés qui vont se mettre à construire des ponts ou donner des dons au niveau des écoles avec des tôles qui viennent du gouvernement provincial. Ceci, à un moment donné, a paralysé l'action de l'Assemblée provinciale, l'action qui concerne amener le contrôle parlementaire. Et quelques temps après, parce que c'était précaire, comme je l'ai dit, vous avez vous-même rappelé qu'il y avait une motion d'un député, effectivement, cette motion a été utilisée comme un élément de règlement des comptes. Un peu comme pour les groupes de mécontents au sein de l'Assemblée provinciale qui voudraient maintenant se servir des instruments constitutionnels et légaux pour régler les comptes vis-à-vis du gouvernement provincial. Alors, il y a toujours au niveau politique ces conflits entre personnalités politiques qui se traduisent au niveau des institutions provinciales. Les personnalités politiques, ils peuvent être de la majorité, tout comme de l'opposition. Nous avons remarqué que même au niveau de Bandundu, même au niveau de la majorité présidentielle, les personnalités politiques opposent les partis de la majorité au sein de la majorité dans la province. Nous avons beaucoup de cas. Si vous allez, par exemple, il y a récemment, il y a eu des décès à Gungu, l'autre a parlé, M. Prosper, excusez-moi, a parlé du cas du Dey et de Kester Emenea, ainsi de suite. Et donc tout ceci, ça apporte une influence politique négative des politiciens sur le fonctionnement des partis politiques au niveau de la province de Bandung. Sur le plan sécuritaire, heureusement que M. Prosper a évoqué, la sécurité ne veut pas dire, l'insécurité ne veut pas dire tout simplement la guerre comme à l'Est. Non, non. Il y a effectivement la question des braconniers à la frontière avec l'Équateur. C'est une vieille question. Nous aurions aimé que notre ami du gouvernement provincial nous dise quelles sont les pistes qui ont, les solutions qui ont été apportées par le gouvernement provincial. Le punaise question des conflits des terres, effectivement, dans l'affaire Bolobo. Ça, c'est une vieille question. À Bolobo, ce sont des communautés qui sont en train de chamailler, effectivement, pour ceci disent, ici c'est chez nous, ceci c'est notre terre, ceci c'est un conflit des terres. Effectivement, notre ami doit nous dire effectivement quelles sont les solutions qui ont été apportées, parce que ça crée de l'insécurité au niveau de la population. Il y a eu mort d'homme, nous connaissons très bien le cas. Les conflits coutumiers, en tout cas, à ce que je sache comme expert, la province du Bandundu fait partie des provinces qui ont le volume le plus important des conflits coutumiers à régler. Ils ont oublié une chose qui agace toutes nos provinces à travers les territoires nationaux, qui existe aussi à Bandung, que ce soit par la voie qui passe par l'eau et dans certaines routes, ce sont les barrières et les tracasseries policières. Effectivement, à cette question, les gouvernements provinciaux, les autorités provinciales, les ministres provinciaux de l'Intérieur, ils doivent effectivement jouer leur rôle pour mettre fin à ce genre de choses, parce que ça empêche à la population de circuler librement au sein de la province. Ça, ce sont des questions qui se posent au niveau de Bandundu sur le plan politique et sécuritaire. Il y a d'autres, mais les grandes questions qui se posent, c'est celle-là.
Voilà, Monsieur Christophe Maïla, conseiller du gouverneur, vous avez suivi Monsieur Ndjore, le président de la société civile de Bandundu, et qui parle sur le plan politique d'un calme apparent. Et l'expert Soudi Ali Massi, qui lui parle d'une stabilité précaire entre les institutions, comment vous agissez à leurs propos?
Moi, je pense que un calme apparent, c'est-à-dire que la province du Bandundu a 18 territoires. Et les problèmes qui se posent, il a cité deux territoires, les territoires d'Oshoué et les territoires de Bolobo. Alors, lorsque vous regardez la géographie de ces deux territoires, vous sentez que ce sont les territoires qui se trouvent pratiquement dans la forêt équatoriale. Et dans la forêt équatoriale, nous avons des situations, des endroits où on appelle des forêts vierges, où personne n'est déjà entré. Et le braconnage se passe généralement au niveau du parc national de Salonga Sud, dont une grande partie se trouve dans la province du Bandundu. C'est le même problème que nous avons au parc national dans la province du Nord Kivu, et c'est le même problème qui revient aussi dans la province du Bandundu. Je pense que le gouvernement provincial est en train de travailler là-dessus, parce que ce problème n'est pas arrivé avec l'actuel gouverneur Kamisendo. C'est-à-dire c'est un problème que nous avons trouvé et nous sommes en train de prendre des dispositions petit à petit jusqu'à ce qu'on arrivera à éradiquer ces phénomènes. Mais si vous constatez dans l'ensemble de la province du Bandundu, je peux vous dire aujourd'hui, vous pouvez quitter Bolobo, vous allez dans le territoire de Kaemba, de Fechi, Kasongulunda, Popo, Kabaka et partout ailleurs. En tout cas, des problèmes d'insécurité ne se posent pas.
Et vous arrivez à sécuriser les éleveurs?
Pardon?
Les éleveurs. Est-ce que vous arrivez à les sécuriser?
Oui, les éleveurs. L'autre, il y a pas longtemps, on a appris que dans la province, à Mangaï, il y avait un problème dans ce sens-là. Le gouvernement provincial a dépêché justement le vice-gouverneur, le ministre provincial en charge de l'intérieur pour résoudre ce problème. Donc, en grosso modo, j'ai pu dire que ce sont des situations que nous avons héritées. Et nous sommes en train de nous battre petit à petit avec le moyen de bord pour mettre fin à cette situation.
Certains habitants de la province du Bandundu se sont prononcés sur le bilan de la gestion de cette province. On écoute leurs propos recueillis par Fabien Kambinzi.
Bon, moi, à mon avis, le bilan est très mitigé. Depuis 2011 jusqu'à présent, sur les plans socio-économiques, vraiment, toutes les populations de la RDC, en général et en particulier, nous, des Bantouines, vraiment, nous croupissons dans la misère. Jusque-là, nos élus là-bas ne défendent que leurs intérêts. Nous sommes abandonnés à notre triste sort.
Chaque fois, on nous parle ici, dans la province de Bandundu, de village agricole. Mais sur le terrain, on ne voit même pas un grain de maïs. Ici, à Kikwit, même à Kin, on ne voit même pas. Ce sont les efforts personnels. Ce sont les paysans, les agriculteurs qui se livrent chaque jour, qui se torturent.
Le bilan est très médiocre. Rien ne se produit et rien ne se manifeste, comme si nous n'avons pas de dirigeants. Et les dirigeants s'en bénéficient. Ils travaillent à leur profit au détriment de la population. Juste surtout ce qui concerne les infrastructures. On peut, par exemple, aller des routes, l'eau et l'électricité. Jusque-là, aucun point de ces points n'est abordé.
Bon, selon moi, je pense que c'est quand même positif par rapport à l'évolution de la province. Nous avons vu le projet de village agricole que le gouverneur a quand même initié et qui montre quand même qu'il a fait quelques pas. Et maintenant, comme nous à Kikwit, on venait de voir, on est en train de réhabiliter notre route urbaine, parce que c'est ça qui fait la ville de Kikwit.
La première impression était très bonne quand nous avons appris que monsieur le gouverneur, c'était Jacques Kamisendo. C'était un homme de peuple, nous pensions que peut-être il pouvait faire quelque chose de bien. Mais pas après, nous avons constaté que rien n'a été fait, mais les taxes se multiplient, on ne sait pas où la destination de cet argent-là.
Ce qui m'a plu dans ce que je peux dire au propos de la gestion, c'est l'avènement des villages agricoles. Mais les combles, les souhaits qu'on élargisse, qu'on étende ça dans tous les coins. Et là, on met ça seulement sur la voie publique pour que les gens voient que maintenant il faut qu'on étende ça dans tous les coins de la province. Parce que c'est une province agricole, c'est mieux que cette histoire prenne de l'air, qu'on installe ça partout, dans tous les coins de la province. Nous sommes dans une province agricole. On n'a plus d'usines ici, la Belgique est partie, les nuques usines, ce sont les champs. Alors, c'est mieux qu'on mette vraiment du poids dans ces programmes-là, village agricole.
Christophe Malela, conseiller du gouverneur, la population a parlé. Pour les uns, le bilan est mitigé. Pour les autres, le bilan est positif. Pour les autres encore, c'est un bilan médiocre.
Bon, moi je pense que chacun est libre de s'exprimer. Hein. Vous devez comprendre que le Bandundu, c'est une province pauvre. Ça, qu'on se le dise, le Bandundu, c'est une province pauvre où les gens vivent avec $1 par jour.
Mais avec d'énormes potentialités.
La province du Bandundu a des potentialités sur le plan agricole.
Mais qui ne sont pas exploités.
On arrivera là-bas. Mais en ce qui concerne les minéraux, il faut dire que ce n'est pas encore, même pas exploité, mais ce n'est pas encore exploré. Donc nous ne savons pas où se trouve quoi dans notre province, mais on apprend que nous avons du pétrole dans le lac Maïndombé, nous avons les quinquaires pour le ciment à Pembo, tout ça ce ne sont pas encore explorés. Je pense que si on arrive à explorer tout ça et à exploiter, je pense que la province du monde ne peut aller de l'avant. Alors il faut aussi comprendre une chose, la population pense que son malheur vient du gouvernement provincial. Enfin, je vous dirais que les responsabilités sont partagées. Le gouvernement provincial fait le travail à la limite de ses moyens. partons. Le gouvernement provincial ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est en train de gagner par rapport à la population de la province.
Merci Prosper Ndjore. Vous avez suivi la population qui s'est prononcée par rapport au bilan de la gestion de cette province. Les attentes sont énormes et apparemment elles n'ont pas été satisfaites.
Effectivement, la population a raison puisque quand M. Jacques Amisson est venu aux affaires au pouvoir, tout le monde était sûr que c'est lui le Moïse qui est venu dans la province du Bas-Nouveau, puisque les théories que le gouverneur a avec son gouvernement, quand il démontre ça, il explique ce qu'il souhaite faire. En termes de théorie, vous direz, voilà l'homme qui convient pour l'exécutif provincial. Mais sur terrain, comme a dit un frère qui est intervenu à Kikwite, on ne sent rien. Le conseil prétend dire qu'ils sont arrivés en province, les recettes de province étaient à peine de 40 ou 50 000 dollars par mois. Ils ont hissé ça jusqu'à 250 000 dollars par mois. C'est bien bon, nous sommes contents d'entendre tous ces chiffres-là. Mais du point de vue concret, sur terrain, palpable sur terrain, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces recettes-là? Village agricole, c'est devenu comme une chanson seulement, une théorie de développement. Qu'on nous montre le village agricole, les tonnes de maïs ou de manioc produits dans les champs de village agricole initiés par le gouvernement provincial. Qu'on nous montre les dépôts là où on stocke ces foufous-là ou ces maniocs-là ou maïs au niveau de la province d'abord avant qu'on puisse amener ça dans d'autres centres de consommation. Qu'on nous dise même ne fût-ce que la marque, puisque on doit être fier si un produit vient de chez nous du Bas-Nouveau. On doit dire aussi que ça c'est du foufou, ça c'est le maïs venant du Bas-Nouveau. Où seraient ces tonnes de maïs ou d'haricots ou d'arachides qui seraient produites à partir du Bas-Nouveau de par le village agricole? Donc, c'est une philosophie du développement, mais il n'y a rien de concret qui se fait par rapport à cette philosophie-là. Selon la population, c'est plein pour dire que, avec la philosophie, les gens étaient très contents de dire que voilà l'homme qui convient, puisque le discours contient cadre effectivement avec ce que la population attendait. Mais sur le plan concret, sur le plan pratique, ils sont restés sur le discours vanté au village agricole, mais il n'y a rien sur le village agricole, c'est une théorie de développement seulement.
Merci.
La population a raison.
Quel bilan dressé sur le plan socio-économique, Prosper Ndjore? Je rappelle que vous êtes président de la société civile du Bandundu. Qu'en est-il de l'accès à l'eau potable et de la desserte en électricité? On a parlé à un moment donné de l'édification, n'est-ce pas, du barrage des Kakobola. Qu'en est-il par rapport à la construction de ces barrages?
Je crois d'abord par l'eau. La population de la province du Bandundu est desservie en 19% seulement en eau potable. Donc c'est pour dire que la majorité de la population consomme l'eau qui n'est pas potable. Il y a tout un service d'hydraulique rurale pour lequel on a doté la province des engins. Et ces engins-là sont en train de moisir au chef-lieu de province, tout simplement pourquoi manque de carburant pour aider les villages, aider les grandes agglomérations à avoir des forages dignes de l'eau pour avoir de l'eau potable. On va dire que ça c'est servir la population. La population a besoin des services sociaux de base. L'électricité, bien sûr, on sait que ce n'est pas aussi facile d'électrifier une grande province comme celle-ci. La ville de Bandundu a eu l'avantage d'être branchée sur la ligne Dinga. La ville de Kikwite, il y a un barrage qui est tenté de se construire. Et jusqu'à là, ce n'est pas encore déterminé. Mais en commençant ne fût-ce que par l'eau, donner de l'eau à la population, et surtout que le gouvernement central a doté la province des engins. Et c'est question seulement que la province puisse mettre un peu de moins la bonne volonté en mettant du carburant dans ces engins-là et laisser au service approprié pour aller faire des forages dans nos villages. Ce discours-là, quand vous dites ça devant le gouvernement provincial, on vous démontre que quel montant de rétrocession qu'on nous envoie, nous n'avons pas d'argent. Entre-temps, ils brandissent qu'ils ont réajusté des recettes de plus de 200%, de plus de 250%, mais commencez par des besoins sociaux de base. Il n'y a pas d'abattoir. Vous pouvez comprendre que tout un chef-lieu de province, il n'y a pas d'abattoir. Et on va dire que il y a développement, les services sociaux de base sont résolus. Les routes sont impraticables. La morgue, une petite morgue pour les chef-lieu de province, à Kikwite, n'en parlons même pas.
Merci.
Le frère qui a parlé de la route à Kikwite. Mais c'est justement une petite intervention ponctuelle qu'on est tenté de faire maintenant dès qu'on a senti que les événements qui se sont déroulés avec le festival des Menea a dérangé la morale des gens de Kikwite. On commence à planir un peu.
Merci.
certaines avenues ou les routes, tout ça, on va dire que vraiment, ça, c'est, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Les besoins sociaux de base, nous avons besoin de routes, nous avons besoin des hôpitaux, des écoles, des dispensaires, des abattoirs, comme j'ai dit ici. C'est
merci,
ça qui va
rendre Ndoré.
Service à la population. Le reste.
Merci. Quel bilan dressé sur le plan socio-économique, Maître Soudi Alimasi Kimputu? Vous êtes expert en décentralisation. Comment vous analysez les bilans socio-économiques du point de vue, n'est-ce pas, réhabilitation des routes, des dessertes agricoles et de la voirie urbaine?
Absolument, absolument. Je crois que sur le plan socio-économique, nous devons partir d'abord de la difficulté de répartition de la rétrocession entre le gouvernement provincial et les entités territoriales décentralisées. Cette question revient sur presque l'ensemble des provinces de la République. On ne peut pas développer le Congo dans nos bureaux à Kinshasa. On ne peut pas développer nos entités territoriales décentralisées, pour le cas de la province du Bandundu, dans nos bureaux du chef-lieu du Bandundu. Il faudra donner les moyens aux autorités des entités territoriales décentralisées qu'ils puissent appliquer leurs plans annuels de travail pour permettre à la population d'accéder au développement local.
Maître Soudi, vous êtes un des experts en décentralisation et les experts disent que les ETD qui reçoivent plus de rétrocessions, c'est entre 4 000 et 5 000 dollars. Et vous pensez qu'avec avec cet argent, les ETD peuvent, les entités territoriales décentralisées peuvent arriver à financer leurs projets de développement?
C'est là qui revient la question de l'organisation de la collecte des recettes locales. Je suis heureux que le conseiller puisse évoquer qu'il y ait une amélioration. Mais pour une province comme le Bandundu, ça c'est un petit pays lorsque vous comparez cette province avec les pays européens. C'est pas avec 250 000 par mois qu'on va construire les routes, qu'on va faire ceci. Il faut accroître les initiatives pour accroître les recettes locales. La province du Bandundu a des problèmes de routes de 17 agricoles pour évacuer les produits agricoles, parce que c'est une province à cette vocation-là. La province du Bandundu, elle est enclavée alors qu'elle ne devait pas l'être. Il faudrait qu'il y ait une politique au niveau du gouvernement provincial qui puisse permettre, par exemple, qu'il y ait jonction avec les pays voisins, de manière à ce qu'il y ait accès au niveau des grands ports de ces pays-là. C'est comme ça que même l'Afrique ici est en train de se développer à l'est et dans d'autres régions. Quelqu'un a parlé de la question de l'eau potable, parce que ne parlons même pas encore de l'électricité, parce que c'est une question qui affecte en même temps le gouvernement central. Mais l'eau potable au niveau de la population, il faudrait une politique provinciale et même locale. Quand on parle des engins qui traînent à Bandundu-Ville, alors que ces engins devaient en principe traîner au niveau des entités territoriales décentralisées, parce que c'est là où il y a les besoins criants d'eau potable, où on pouvait forer et donner de l'eau qui puisse permettre à ce que notre population arrive quand même à atteindre un des objectifs du millénaire pour le développement, boire de l'eau qui puisse lui permettre de garder une bonne santé. Il y a aussi cette question de la précarité des structures des soins de santé et des écoles au niveau de la province du Bandundu. Le Bandundu, c'est l'une des provinces qui compte le plus grand nombre d'écoles. Et la majorité de ces écoles sont en délabrement. Il fallait que notre ami, lorsque nous faisons ce genre de bilan, qu'on nous donne les statistiques. Et dire, par exemple, sur le 18 territoires, voici des centres de santé qui ont été réhabilités. Voici, par exemple, les centres hospitaliers de référence qui ont été équipés. Voici le taux de réduction de telle épidémie ou telle autre maladie qui ont été faites de par la politique du gouvernement provincial. La même chose en ce qui concerne la scolarité, ainsi de suite. Nous avons la question de la réorganisation de l'agriculture. Moi, j'apprécie l'initiative des villages agricoles et je soutiens même. Mais seulement, il faudra que cette question des villages agricoles puisse se faire ressentir au niveau du petit quotidien de la population.
Merci.
J'ai donné l'exemple de la province du Kasaï-Oriental, chez le gouverneur Ngoï Kassandji. Quelqu'un a parlé du prix du maïs avant le programme du gouvernement provincial sur l'agriculture. De comment ça a baissé. Ça, c'est un impact direct au niveau de la population.
Il faudra
que nos amis nous aident à comprendre aussi ce que le village agricole a apporté vis-à-vis de la population par rapport à la situation précédente.
Merci Christophe Malela, conseiller chargé de la presse, information et communication du gouverneur du Bandundu. Vous avez suivi les bilans dressés par Maître Soudé et M. Ndjoré sur le principe économique. On parle de la rétrocession, la répartition de la rétrocession entre les gouvernements provinciaux et les entités territoriales décentralisées. On parle de la politique provinciale en ce qui concerne l'eau, une politique qui n'existe pas, et de la précarité des structures de santé. Et ils ont demandé si vous avez des statistiques.
Voilà, mais moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a des matières qui dépendent de la compétence du gouvernement central et il y a des matières qui dépendent de la compétence du gouvernement provincial. Même en ce qui concerne les routes, nous avons les routes qui dépendent directement du gouvernement central et les routes qui dépendent du gouvernement provincial. En ce qui concerne l'électrification, par exemple, de la province du Bandundu, ici, on construit les barrages hydroélectriques des Kakobo, là, dans les territoires des Gungu. Vous constaterez que les travaux sont financés à 100% par le gouvernement central. Donc, ça ne concerne pas les gouvernements provinciaux. J'ai suivi religieusement Ndjoré, Prosper, le président de la société civile. Mais je pense que mon frère doit s'informer encore davantage avant de faire des interventions à la radio comme à la télévision. Il parle des matériaux de l'hydraulique rurale qui sont bloqués à Bandundu. Moi, je me pose la question, ces matériaux-là sont bloqués où? Parce que lorsque nous sommes arrivés à Bandundu, on avait trouvé des matériels au bureau, à la résidence du gouverneur. Et aujourd'hui, nous les avons déployés à travers toute la province. Vous allez par exemple au quartier Ekazamba, dans la commune de Kikwit, vous verrez que aujourd'hui la population a accès à l'eau potable grâce au service d'hydraulique rurale. Lorsque vous sillonnez la nationale numéro 1 à Kenge, à Bukangalonzo, partout, vous verrez des tanks écrits service national d'hydraulique rurale. Donc cette population a déjà accès à l'eau potable. Mais lorsque vous constatez l'immensité de la province du Bandundu. Le Bandundu, c'est plus que les Bénin, c'est plus que la Côte d'Ivoire, c'est plus que à peu près le Sénégal.
Voilà, donc, nous tendons vers la fin de l'émission, nous allons donc conclure. Et à votre avis, que faut-il faire pour améliorer la gestion, n'est-ce pas, de la province du Bandundu?
Pour améliorer la gestion de la province du Bandundu, il faut d'abord que le gouvernement central puisse nous aider. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que la province du Bandundu reçoit 350 millions de francs congolais chaque fin du mois comme rétrocession, dont il bénéficie actuellement. Alors, le Bandundu occupe la dernière place en termes de recettes rétrocédées aujourd'hui par Kinshasa. Alors, lorsque nous prenons le 350 millions de francs congolais de la rétrocession, nous ajoutons les recettes internes, nous sommes autour des 600 millions de francs congolais par mois. Et avec cet argent, si vous faites la répartition par rapport à 11 millions d'habitants, vous allez voir que c'est impossible pour qu'un gouvernement puisse donner le meilleur de lui-même avec le montant qu'il reçoit.
Merci. Je considère ça comme votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Monsieur Ndjoré, vous êtes de la société civile du Bandundu. Il y a une réaction de l'honorable Maurice Nabaola, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Monsieur Ndjoré pense que je pense que les propos du président de la société civile qui estime que le contrôle parlementaire est un moyen pour le député de s'enrichir n'est pas vrai. L'Assemblée provinciale contrôle le gouvernement et ce n'est pas avec 50 sacs de ciment que les députés vont s'enrichir sur la tête du gouvernement provincial. Monsieur Ndjoré.
Oui, je suis content que les députés aient réagi à ce que j'ai dit et je persiste dans ce que j'ai dit parce que est-ce que vous pouvez trouver normal qu'une entreprise comme Sodefort, une entreprise seulement pour le bois, puisse acheter pour la province plus de 15 000 sacs de ciment. Au lieu que ces 15 000 sacs de ciment puissent être destinés pour les infrastructures de base, on distribue ces sacs de ciment aux députés provinciaux qui disent que ça fait partie de leurs avantages, ça fait partie de leurs émoluments, ça fait partie de leurs indemnités. Et il veut dire que quand ils font ce contrat pour que réellement le gouvernement puisse faire son travail normal,
Merci, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Maître Soudi, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, rapidement, je crois que pour que cette province décolle, il faudra une preuve de bonne gouvernance et la multiplicité d'initiatives. J'ai parlé, par exemple, des routes qui puissent se joindre à cette province, de leur donner l'accès avec les frontières des pays voisins. Ce n'est pas une province enclavée comme le Maniema, comme le centre.
Ils l'ont dit aussi, le conseiller l'a dit, il faut que le gouvernement central puisse aussi les aider.
Pas nécessairement. Il y a ces attributions dont la possibilité au gouvernement provincial.
Merci, c'est la fin de cette émission. Radio.